Chapitre 17. On attribue à Hardin la paternité de nombreux aphorismes. Mais s'il est vrai qu'il excellait dans cet art, un grand nombre sont sans doute apocryphes. C'est bien lui, en tout cas, qui déclara un jour « On gagne toujours à jouer carte sur table, surtout lorsqu'on a la réputation de cacher son jeu. » Poli Verissov avait eu plus d'une fois l'occasion d'appliquer cette maxime durant les 14 années qu'il avait passées sur Anacréon dans une position extrêmement fausse et qui lui donnait souvent la pénible impression de danser sans filet sur une corde raide. Pour le peuple d'Anacréon, il était un grand prêtre, le représentant de cette fondation qui, aux yeux de ces barbares, était le mystère des mystères et le centre géométrique de la religion qu'avec l'aide de Hardin, ils avaient adopté depuis une trentaine d'années. À ce titre, il recevait des hommages qui n'avaient pas tardé à le lasser au-delà de toute mesure, car au fond de son cœur, il méprisait le rituel dont il était le grand ordonnateur. Mais, pour le roi d'Anacréon, pour l'ancien, mort maintenant, puis pour son petit-fils qui occupait maintenant le trône, il n'était que l'ambassadeur d'une puissance à la fois crainte et convoitée. La situation était pour lui dans l'ensemble assez inconfortable. Aussi, ce premier voyage à la Fondation en 3 ans prenait-il un peu des airs de vacances, en dépit de l'incident regrettable qui l'avait motivé. Comme il devait garder l'anonymat le plus strict, ce dont il était désormais coutumier, il avait fait sien à nouveau l'adage de Hardin. Verissov avait voyagé en civil, ce qu'il considérait déjà en soi comme un avant-goût des vacances, et avait pris place en seconde classe à bord d'un appareil commercial à destination de la Fondation. Arrivé sur Terminus, il se fraya un chemin parmi la foule qui encombrait le spatioport et appela l'hôtel de ville depuis un visiophone public. « Je suis John Smite, » dit-il. « J'ai rendez-vous avec le maire cet après-midi. » La jeune standardiste, qui lui répondit d'une voix éteinte, se chargea avec promptitude d'établir une seconde connexion et, après avoir échangé quelques mots avec son nouvel interlocuteur, annonça sèchement à Verissov sur un ton monocorde « Le maire Hardin vous recevra dans une demi-heure, monsieur. » Après quoi l'écran s'éteignit. Sur ce, l'ambassadeur alla acheter la dernière édition du journal de Terminusville, gagna en flânant le jardin de l'hôtel de ville et, s'asseyant sur le premier banc libre, il lut l'éditorial, la page des sports et celle des jeux. La demi-heure écoulée, il plia le journal, le mit sous son bras, pénétra dans l'hôtel de ville et se présenta à l'huissier. Durant tout ce temps, il était passé totalement inaperçu et était par conséquent demeuré en parfaite sécurité. De le voir ainsi arpenter aussi ostensiblement les rues, nul n'aurait songé à se retourner sur son passage. Lorsqu'il l'aperçut, Hardin le gratifia de son plus beau sourire. « Cigare ? Alors, ce voyage ?» Verissov prit un cigare. « Intéressant. J'avais pour voisin un prêtre qui venait ici suivre des cours sur l'élaboration des produits de synthèse ionisée. Vous savez, les substances radioactives qu'on utilise dans le traitement du cancer ? Rassurez-moi, il n'appelait quand même pas ça des substances radioactives. Oh non. Pour lui, c'était du pain de vie. Le maire eut un sourire. Et ensuite, il m'a entraîné dans une interminable discussion théologique et a fait de son mieux pour m'élever au-dessus du matérialisme sordide où je croupis. Et il n'a pas reconnu son propre grand prêtre? Sans la robe pourpre? Pensez-vous. D'ailleurs, c'était un Smyrnien. Cependant, l'expérience fut fort intéressante. Je m'émerveille tous les jours, Hardin, de voir comme la religion de la science a réussi à s'imposer. J'ai écrit un essai sur ce sujet, pour mon plaisir personnel, évidemment. Il ne s'agirait pas de le publier. Si l'on considère le problème du point de vue sociologique, il semble que, quand le vieil empire galactique a commencé à s'effriter, la science en tant que science a disparu peu à peu des régions périphériques. Pour être acceptée de nouveau, il lui a fallu se présenter sous un nouveau visage. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est vraiment une réussite.
Très intéressant, en effet,
dit le maire. Puis, se croisant les mains derrière la nuque, il demanda soudain « Parlez-moi un peu de la situation sur Anacréon. » L'ambassadeur se rembrunit et retira le cigare de ses lèvres.
« Ça va plutôt mal. »
« Si tout allait bien, vous ne seriez pas ici. »
« Sans doute pas. »
« Voici donc où nous en sommes. Le véritable maître d'Anacréon, c'est le prince régent, Viennis, l'oncle du roi Léopold. »
« Je sais. Mais Léopold sera majeur l'an prochain, n'est-ce pas? Je crois qu'il va avoir 16 ans en février. »
« Oui. » Verissov marqua un temps, puis ajouta d'un ton amer.
« S'il vit jusque-là. »
Le père du roi est mort dans des circonstances suspectes. Il a eu la poitrine traversée de part en part au cours d'une partie de chasse, un tir de fusil à aiguille mal ajusté.
On a appelé cela un accident.
Voyons si mes souvenirs sont exacts. Je crois avoir vu Viennis lors de mon passage sur Anacréon quand nous les avons chassés de Terminus. Vous n'étiez pas encore ambassadeur en ce temps-là.
Attendez, si j'ai bonne mémoire, c'était un jeune homme à la peau sombre, les cheveux bruns, qui louchait un peu, l'œil droit, si je me souviens bien.
Et il avait le nez crochu.
Ça lui donnait l'air comique.
Nous parlons bien du même. Il a toujours le nez crochu. Et il louche toujours autant.
Simplement, maintenant, il a les cheveux gris.
Heureusement, c'est le plus parfait ahuri de toute la planète. Et il se croit très fort, ce qui le rend d'autant plus prévisible.
C'est souvent comme ça.
Pour lui, le meilleur moyen de casser une noix, c'est de larguer une charge atomique dessus.
Enfin, vous voyez le niveau.
C'est comme cette histoire d'impôt sur les biens du temple qu'il a essayé de lever il y a 2 ans, juste après la mort du vieux roi, vous vous souvenez?
Hardin hocha la tête d'un air songeur. Les prêtres ont protesté, en effet.
Avec une telle vigueur qu'on a dû les entendre jusque sur Lucrezia. Il se montre plus prudent maintenant dans ses rapports avec le clergé, mais il arrive tout de même à imposer la manière forte. Et finalement, ça ne nous arrange pas tant que ça. Il a une confiance quasi illimitée dans ses capacités.
Sans doute un complexe d'infériorité surcompensé.
C'est fréquent chez les cadets des familles royales, vous savez.
Quoi qu'il en soit, le résultat est le même.
C'est un obsédé. Il ne pense qu'à attaquer la fondation. Et il cache à peine ses intentions.
Il peut d'ailleurs se le permettre, étant donné les armements à sa disposition.
Le vieux roi a construit une flotte formidablement équipée. Et Viennis n'a pas perdu son temps lui non plus au cours de ces 2 dernières années. En fait, l'impôt sur le temple était à l'origine destiné à financer un nouveau programme d'armement. Et quand ce projet a échoué, il a tout bonnement doublé le taux de l'impôt sur le revenu.
Et les gens ont accepté sans récrimination?
Presque. Pendant des semaines, tous les sermons prêchés dans le royaume n'ont traité que de l'obéissance due à l'autorité consacrée.
Viennis, soit dit en passant, ne nous a jamais témoigné la moindre gratitude.
Bon. Je vois à peu près quelle est l'ambiance là-bas.
Et quelles sont les dernières nouvelles?
Il y a 15 jours, un vaisseau marchand d'Anacréon a rencontré un vieux croiseur délabré de l'ancienne flotte impériale. Il devait errer dans l'espace depuis au moins 3 siècles.
Hardin manifesta soudain un vif intérêt.
L'œil vif, il se redressa dans son fauteuil.
En effet, j'ai entendu parler de cette affaire. Le conseil de la navigation m'a adressé une demande officielle à ce sujet. Il voulait qu'on leur remette ce vaisseau afin de l'étudier.
Il est en bon état, ce qu'on m'a dit?
En bien trop bon état, répliqua Verissov.
Quand Viennis a appris la semaine dernière que vous comptiez le prier de remettre l'appareil à la fondation, il a failli en faire une attaque.
Il ne m'a pas encore répondu.
Il ne répondra pas, ou seulement à coup de canon.
Enfin, c'est ce qu'il croit.
Le jour de mon départ d'Anacréon, il est venu me trouver pour demander que la fondation réarme ce croiseur et le confie à la flotte anacréonienne.
il a eu l'aplomb de me dire que votre note de la semaine précédente laissait supposer que la Fondation avait le projet d'attaquer Anacréon. Il a déclaré qu'un refus de réparer ce croiseur ne ferait que confirmer ses soupçons. Et il a ajouté qu'il se verrait alors obligé de prendre des mesures pour assurer la défense de son pays, ce sont ses propres termes. Et c'est pourquoi je suis ici.
Hardin se mit à rire silencieusement.
Verisov sourit et reprit. Bien entendu, il s'attend à un refus, ce qui constituerait à ses yeux un excellent prétexte pour attaquer tout de suite.
Je m'en doute, Verisov. En tout cas, nous avons au moins 6 mois devant nous. Faites donc remettre en état l'appareil et faites-en don à Viennis avec mes compliments.
Tenez, rebaptisez-le même le Viennis, en gage de notre estime et de notre affection.
Il rit à nouveau. Verisov réagit à nouveau par un sourire presque imperceptible.
Je pense, Hardin, que c'est en effet la seule chose à faire, mais je suis un peu inquiet.
Pourquoi ?
Mais vous verriez ce vaisseau. Hein ? On savait construire dans ce temps-là. Son tonnage est égal à la moitié du tonnage total de la flotte anacréonienne. Il a des pièces atomiques capables de réduire une planète en poussière et un champ de force capable d'arrêter un faisceau de rayons quantiques sans dégager la moindre radiation résiduelle. C'est trop bien pour eux, Hardin.
Votre raisonnement ne tient pas debout, Verisov. Vous savez comme moi qu'avec les armes dont ils disposent actuellement, ils pourraient s'emparer de Terminus haut la main, bien avant que nous puissions remettre le croiseur en état pour l'utiliser nous-mêmes. Qu'importe alors si nous faisons cadeau de cet appareil à Viennis. Vous savez bien qu'il n'ira jamais jusqu'à la guerre ouverte.
Probablement pas. L'ambassadeur fixa son interlocuteur dans les yeux et ajouta «
Mais, Hardin, eh bien, qu'est-ce qui vous arrête? Je vous écoute. »
« Cela ne me regarde pas.
Je ne suis pas ici chez moi. » Mais je viens de lire un article.
Il posa le journal sur le bureau et désigna du doigt la première page.
Qu'est-ce que cela signifie? Vous pouvez m'expliquer?
Hardin y jeta un rapide coup d'œil. Un groupe de conseillers forme un nouveau parti politique. Lut-il.
Oui, je sais lire, s'impatienta Verisov. Bien sûr, vous suivez de plus près que moi ces questions de politique intérieure, mais enfin, ils multiplient les attaques contre vous. Sont-ils si forts?
Terriblement. Ils auront sans doute la majorité au Conseil après les prochaines élections.
Pas avant?
S'enquit Verisov avec un regard oblique.
Il existe d'autres moyens que les élections pour s'assurer la majorité.
Vous me prenez pour Viennis?
Non, mais la réparation du croiseur va demander des mois. Et il est à peu près certain que nous serons attaqués aussitôt après. Si nous cédons, cette concession sera interprétée comme un signe de faiblesse absolue et ce croiseur viendra pratiquement doubler la puissance de la flotte de Viennis. Il attaquera aussi sûr que je suis grand prêtre. Pourquoi prendre des risques?
De deux choses l'une. Soit vous révélez le plan de campagne au Conseil,
soit vous mettez tout de suite Anacréon au pied du mur.
Hardin se rembrunit.
Mettre Anacréon au pied du mur maintenant, avant qu'éclate la crise, c'est la seule chose à ne pas faire. Vous oubliez l'existence du plan de Harry Seldon.
Verisov parut hésiter un moment, puis murmura.
Vous êtes donc absolument sûr qu'il y a un plan?
On ne peut guère en douter, répliqua l'autre sèchement. J'ai assisté à l'ouverture de la crypte du temps. Et l'enregistrement laissé par Seldon nous l'a bel et bien révélé.
Ce n'est pas ce que je voulais dire, Hardin.
Je n'arrive pas à comprendre comment on peut prévoir 1000 ans à l'avance le cours de l'histoire. Peut-être Harry Seldon a-t-il surestimé ses capacités.
Et comme Hardin arborait un sourire ironique, il s'empressa d'ajouter:
Évidemment, je ne suis pas psychologue.
Je ne vous le fais pas dire. Et aucun de nous ne l'est. Mais j'ai quelque peu étudié la question quand j'étais jeune. Suffisamment pour savoir quelles possibilités offre la psychologie, même si je ne puis les exploiter moi-même. Il est certain que Seldon a fait exactement ce qu'il prétendait faire. La Fondation constitue bien un refuge scientifique. Elle représente le moyen qui permettra de préserver, dans les siècles de barbarie qui commencent, la science et la culture d'un empire agonisant, et de les ranimer pour donner naissance à un nouvel empire. Verisov hocha la tête, l'air à moitié convaincu seulement.
« Tout le monde sait que c'est comme ça que les choses sont censées se passer, en théorie. Mais pouvons-nous nous permettre de prendre des risques ? Pouvons-nous engager le présent pour un avenir problématique ? Il le faut.
Parce que cet avenir n'est nullement problématique. Il a été calculé et prévu par Seldon. Chacune des crises successives de notre histoire a été envisagée et chacune dépend dans une certaine mesure de la conclusion apportée aux précédentes. Nous n'en sommes qu'à la deuxième crise. Et l'espace sait quels désastreux effets pourrait avoir la plus légère déviation.
C'est une hypothèse gratuite.
Mais non.
Harry Seldon a dit dans la crypte du temps qu'à chaque crise, notre liberté d'action serait si faible que nous ne pourrions adopter qu'une solution. De façon que nous ne nous écartions pas du droit chemin.
De façon à nous empêcher de dévier.
Mais inversement, tant que plusieurs solutions continuent à s'offrir, c'est que la crise n'a pas encore éclaté.
Nous devons, coûte que coûte, laisser les événements suivre leur cours aussi longtemps qu'il est possible, et par l'espace, c'est bien ce que j'ai l'intention de faire.
Verisov ne répondit rien. Amer, il se mordillait la lèvre inférieure en silence. Il n'y avait qu'un an que Hardin avait pour la première fois abordé avec lui le problème crucial, celui de faire échec aux préparatifs d'agression d'Anacréon. Et encore, seulement parce que Verisov s'était montré réticent devant la perspective de nouvelles mesures de conciliation. On aurait dit que Hardin lisait les pensées de son ambassadeur.
« J'aurais préféré ne jamais vous parler de tout cela. »«
Pourquoi dites-vous une chose pareille ?» s'exclama Verisov au comble de la surprise.
« Parce que cela fait maintenant 6 personnes. »«
Vous ?» Moi, les 3 autres ambassadeurs et Johan Lee, qui se doute de ce qui va se passer.
Et je crois bien que Seldon aurait voulu que personne ne soit au courant.
Comment cela?
Parce que, si avancée soit-elle, la psychologie de Seldon avait ses limites. Il était incapable de prendre en compte un trop grand nombre de variables indépendantes. Il ne pouvait appliquer sa méthode à des individus sur le long terme. Pas plus que l'on ne peut appliquer la théorie cinétique des gaz à des molécules isolées. Il travaillait sur des masses, sur les populations de toute une planète, et seulement sur des masses aveugles qui ignorent quel sera le résultat de leur comportement.
Je vous suis mal.
Je n'y peux rien. Je ne suis pas assez qualifié dans ce domaine pour vous donner une explication scientifique. Mais vous savez en tout cas une chose, c'est qu'il n'y a pas un seul psychologue de formation sur Terminus et pas davantage de textes mathématiques concernant la psychohistoire. Il est clair que Seldon ne voulait pas qu'il y ait sur Terminus quelqu'un capable de calculer quel serait l'avenir. Il tenait à ce que nous avancions en aveugle, et donc dans le bon sens, selon les lois de la psychologie des masses.
Comme je vous l'ai déjà dit, je ne savais absolument pas où nous allions quand j'ai expulsé les Anacréoniens. Je voulais seulement pratiquer une politique de bascule. C'est plus tard que j'ai cru discerner dans les événements un fil conducteur. Mais j'ai fait de mon mieux pour ne pas en tenir compte. Toute modification de notre politique en fonction de l'avenir aurait fait échouer le plan.
Verisov hocha la tête d'un air songeur.
J'ai entendu des raisonnements presque aussi compliqués dans les temples d'Anacréon. Comment comptez-vous savoir que le moment sera venu d'agir ?
Je le sais déjà.
Vous admettez qu'une fois le croiseur remis en état, rien n'empêchera Viennis de nous attaquer. Il n'y aura plus d'autre solution.
Oui.
Bien. Voilà qui règle la question en ce qui concerne la politique étrangère. Vous conviendrez également que les prochaines élections nous donneront un nouveau conseil hostile qui nous obligera à prendre des mesures contre Anacréon.
Là non plus, il n'y aura pas d'autre solution.
C'est exact.
Eh bien, dès l'instant où il n'y a plus de choix à faire, la crise est là.
Malgré cela, je suis un peu inquiet.
Il se tut et Verissov attendit. Lentement, comme s'il parlait à contre-cœur, Hardin reprit.
J'ai l'idée, ce n'est pas encore très clair dans mon esprit, que la crise devrait éclater simultanément sur le plan intérieur et sur le plan extérieur, et que tout a été prévu en ce sens. Or, il va y avoir là une différence de quelques mois. Viennis attaquera sans doute avant le printemps, et nous sommes encore à un an des élections.
Ce n'est pas une différence bien importante.
Je n'en sais rien.
Peut-être est-ce dû seulement à d'inévitables erreurs de calcul, ou bien au fait que j'en savais trop long. Je me suis efforcé de ne jamais laisser mes pressentiments peser sur mes actes.
Mais comment puis-je être sûr d'avoir réussi?
Et quelles conséquences cette divergence aura-t-elle?
Quoi qu'il en soit, j'ai déjà pris une décision,
conclut-il en levant les yeux.
Et quelle est-elle?
Quand la crise éclatera, je partirai pour Anacréon. Je veux être sur place.
Mais en voilà assez pour ce soir, Verissov.
Il se fait tard. Allons fêter votre retour, j'ai besoin de me détendre.
Fêtons-le ici, alors, dit Verissov.
Je ne veux pas qu'on me reconnaisse, sinon vous savez ce que diraient les membres de ce nouveau parti que sont en train de former vos fameux conseillers.
Faites-nous donc servir de l'eau-de-vie.
Hardin fit apporter de l'eau-de-vie.
Juste un peu.